des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Bernard Blache, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici au Palais de la Découverte à Paris. Vous êtes le commissaire de l'exposition consacrée à Nobel, Alfred Nobel. Une exposition qui se déroule du 7 octobre 2008 au 9 janvier 2009. Nous allons avec vous parcourir cette exposition, retracer le testament, bien sûr, d'Alfred Nobel. Je parle du testament puisque nous sommes devant une plateforme consacrée à ce document.
À
nous parlerons également de la vie d'Alfred Nobel, de sa famille et bien sûr de ses inventions. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, Alfred Nobel naît en 1833 d'une famille aisée, une famille d'inventeurs.
Alors, c'est un petit peu compliqué la famille aisée parce qu'il y a eu des hauts et des bas. C'est-à-dire que très jeune, je pense qu'il y a eu une période véritablement de misère qui a fait que le père d'Alfred Nobel, Emmanuel, a été obligé de s'expatrier à Saint-Pétersbourg. Et on raconte, mais alors ça je ne suis pas sûr que ce soit pas de la légende, que les enfants Nobel se sont retrouvés dans les rues de Stockholm en train de vendre des allumettes, déjà les explosifs peut-être, enfin un peu légèrement préjugé de la suite. Et puis finalement, petit à petit, le père de Nobel a réussi en Russie, alors déjà dans les explosifs, puisque en fait en gros il fabriquait des mines qui ont été utilisées pendant la guerre de Crimée, et donc quand il a réussi à Saint-Pétersbourg, il a fait venir la famille. Et là, on pense que c'était quand même véritablement dans un contexte de milieu aisé, puisque Nobel a eu essentiellement des précepteurs, donc n'allait pas à l'école autrement qu'avec ses précepteurs, qui en particulier étaient des chimistes, ce qui explique peut-être la suite.
Avançons, si vous le voulez bien, vers la première plateforme consacrée au testament qu'a rédigé Alfred Nobel. Il l'a rédigé peu de temps avant sa mort.
Oui, alors il l'a rédigé dans les années 95, donc il l'a rédigé quelques années avant sa mort. Et en fait, c'est assez curieux parce que pour quelqu'un qui avait un esprit assez scientifique, on peut dire que ce testament a été rédigé à la main, pratiquement sans conseil juridique. Il a fait trois versions successives avec des corrections. D'ailleurs, c'est un petit peu triste pour le Centre culturel suédois à Paris, puisque dans le premier testament, il figurait en bonne place et puis il a disparu dans les suivants. Donc pour eux, c'est assez regrettable. Et il y a eu beaucoup de contestations à la suite de ce testament. Alors il a pratiquement rien laissé à des neveux, puisque donc il avait trois frères.
Alfred Nobel n'avait pas d'enfant.
Il n'avait pas d'enfant lui-même.
Était-il marié ?
Il n'a pas été marié, en fait. Il a eu quelques épisodes, on va dire, amoureux, mais très brefs. Et donc, il n'avait pas véritablement de descendance. Et puis, il critiquait fortement tout ce qui était héritage. Il disait que l'héritage, c'était véritablement quelque chose de scandaleux, que les gens n'avaient qu'à faire leur chemin dans la vie et qu'il n'était pas question qu'ils démarrent avec une dotation au démarrage. Alors, ce testament a été très, très, très contesté parce que d'abord, dans quel pays s'appliquait-il ? Puisque finalement, Alfred Nobel avait vécu en France, il a fini sa vie
en Italie.
Il était suédois, donc il y a eu une grande contestation pour savoir dans quel pays ce testament s'appliquait.
Il est rédigé en quelle langue ?
Alors, il est rédigé essentiellement en suédois, en fait. Et il a été rédigé donc à Paris, alors sur un bureau qu'on verra un petit peu plus loin dans l'exposition, et qui est à l'heure actuelle au centre culturel suédois. Mais alors donc, tout un tas de contestations pour savoir comment il allait s'appliquer. Ce qui fait que finalement, en gros, le premier prix Nobel n'a été remis qu'en 1901, parce que quand même, les dispositions essentielles étaient pour prévoir l'instauration de ce prix et comment ça allait fonctionner et comment seraient choisies les personnes qui devaient se réunir tous les ans pour choisir les prix Nobel de l'année.
Alors, on l'a bien compris, c'est un un texte qui en fait est la genèse de tous ces prix que l'on connaît aujourd'hui, des prix qui ont été remis, comme vous le disiez à l'instant, en 1901 pour commencer. Il a nommé des exécuteurs testamentaires.
Alors en gros, voilà, il a créé ce qui est devenu la Fondation Nobel. Et puis surtout, il a dit très précisément dans quelles conditions les prix seraient appliqués. Alors il y a une chose qui est absolument formidable, c'est qu'on aurait pu penser qu'il allait favoriser la Scandinavie, donc c'est-à-dire la Suède, la Norvège. Mais finalement, il a fait quelque chose d'ouvert au monde entier. Et je pense que ça, c'est quand même assez caractéristique. Et un petit peu, ça lui a été reproché, en fait, à l'époque. Ça lui a été reproché, entre autres, par les Suédois. Mais il a créé véritablement quelque chose d'ouvert au monde entier pour qu'il y ait une compétition totalement libre et ouverte. Il a également désigné donc la façon dont seraient choisis les gens qui décideraient tous les ans. Donc, par exemple, en Suède, l'Académie des sciences pour les prix Nobel de physique et de chimie, le Karolinska Institut pour ce qui concerne la médecine et la biologie, un certain nombre d'académiciens pour la littérature, et puis aussi, ce qui lui a également été reproché à l'époque, il a confié à la Norvège le soin d'attribuer le prix Nobel de la paix. Alors là, c'est le Parlement norvégien qui est réputé choisir donc les gens qui vont sélectionner le Nobel de la paix.
Cet argent, 32 millions de couronnes, je crois, qu'il lègue, il y a quelque chose d'extraordinaire dans son testament. Il explique que c'est à partir du placement de cet argent que l'on va pouvoir redistribuer tous les ans des prix. Parce qu'on peut se poser la question, d'où sort cette somme tous les ans, l'équivalent d'un million d'euros par lauréat ?
Alors en fait, alors d'abord c'est pas tout à fait un million d'euros par lauréat, c'est un million d'euros par prix, puisque
par
en
prix.
Fait, quand un prix est partagé en deux ou en trois, on divise en deux ou en trois la somme d'un million d'euros. Mais c'est vrai que finalement, donc c'est un industriel et un industriel qui a réussi, et il a laissé cette somme. Alors on dit que l'équivalent serait à peu près 150, 160 millions d'euros, et finalement, cette somme a été, à mon avis, bien gérée, bien placée. Puisqu'on estime à l'heure actuelle qu'elle a plus que doublé. Et c'est ça qui permet effectivement, d'une part, d'attribuer le prix tous les ans, et puis aussi d'organiser les festivités. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tous les ans à peu près 1300, 1400 personnes qui sont invités tout frais payés à Stockholm. Alors c'est très sympathique parce que par exemple l'an dernier pour Albert Fert, il a eu une autorisation exceptionnelle d'inviter 15 personnes au lieu des 7 ou 8 qui sont habituels. Mm-hmm. Et finalement c'est tout à fait sympathique que les gens qui reçoivent le prix Nobel puissent associer bien évidemment leurs proches, mais aussi les gens de leur labo, les gens avec qui ils ont fait en général ce travail de découverte.
Alfred Nobel est un inventeur, on le connaît pour la dynamite, on en reparlera bien sûr dans quelques instants. Comment expliquer qu'il a créé bien sûr un prix Nobel de chimie, de physique, de médecine ? Pourquoi avoir créé un prix Nobel de la paix et un prix Nobel de littérature ? C'était deux thèmes qui lui étaient chers également.
Alors la littérature, ça je pense que c'est assez facile. Il se piquait de littérature, il écrivait entre autres des poèmes. Et donc je pense que véritablement là, il y avait un goût pour ce qui était... Alors on peut s'interroger sur la qualité de ce qu'il écrivait. Vous me direz aussi que le premier prix Nobel de littérature qui a été attribué à Sully Prudhomme, on peut se demander aussi si c'était véritablement...
Il était à l'Académie française, on ne va pas
oui,
le critiquer.
Oui. Mais donc ça, pour la littérature, c'était assez clair. Alors je pense que côté de la paix, ça aussi, ça lui a été reproché. Il a été traité de ville pacifiste, etc. Et je pense qu'il avait rencontré un certain nombre de gens qui militaient pour la paix. Et lui-même, donc, alors on a tendance à considérer que ses inventions étaient tournées plus vers la guerre. En fait, il a essentiellement travaillé pour des explosifs à caractère civil, donc des choses qui étaient utilisées dans les travaux publics, etc. La seule invention qui puisse être dédiée véritablement à la guerre, c'est la balistite. La balistite, c'était une sorte de poudre qui était appelée à remplacer la poudre noire, et donc qui remplaçait donc dans les fusils, etc. Et c'est à peu près la seule chose, ça lui a valu des ennuis en France d'ailleurs, puisque Il a été plus ou moins accusé d'espionnage. Il a été obligé de partir en catastrophe en direction de l'Italie.
C'est pour ça qu'il est parti de Paris.
Voilà, c'est pour ça qu'il a quitté Paris pour San Remo. Mais c'est à peu près sa seule découverte à caractère véritablement militaire. Et pour le reste, je pense que comme c'était quelqu'un de très cosmopolite, qu'il avait beaucoup voyagé en Europe, il se rendait compte véritablement de la nécessité impérieuse de vivre en paix. Et donc je crois qu'en particulier sur les 10 ou 15 dernières années de sa vie, il a largement défendu la paix, l'instauration de la paix. Donc c'est pas très étonnant qu'il ait également milité. Alors par contre, il y a un prix Nobel qui est tout à fait exotique et qui est celui qui a été inventé après et qui est celui en gros d'économie.
Et
celui-là a été inventé par une banque suédoise par imitation des autres en fait. Donc ça c'est quelque chose de beaucoup plus surprenant en fait.
En France, nous n'avons qu'un seul, hein, qui est Maurice
oui,
Allais.
Oui, voilà, tout à fait.
Prix Nobel d'économie. Ouais.
La ville de San Remo continue à lui vouer une sorte de culte. Et tous les ans, pour la remise du prix Nobel au mois de décembre, en fait le 10 décembre, puisque c'est le jour anniversaire de sa mort, la ville de San Remo envoie en général 10 à 15 000 fleurs qui servent à décorer la table du banquet à Stockholm. Donc vous avez véritablement une mer de fleurs qui provient de San Remo. Bon, il faut reconnaître que le banquet est un... Bon, moi j'ai eu le plaisir d'y assister l'an dernier.
Ah,
c'est un moment assez étonnant en fait. Bon, il y a la remise évidemment des prix par le roi de Suède. Et puis, au cours du banquet, il y a d'abord la descente solennelle du grand escalier. Donc, on a vu par exemple Albert Fert qui descendait l'escalier, présentant très bien avec la princesse Victoria à son bras et descendre les marches. Et puis, finir la soirée en dansant quelques rocks. Puis, alors, il y a un petit discours à un moment, donc de 3 minutes, pour raconter ce qu'il a fait. Et il a expliqué que son rêve aurait été d'être cinéaste et qu'il avait beaucoup apprécié Ingmar Bergman. Donc évidemment, la foule a fortement apprécié cette référence à la Suède.
Pour revenir quelques minutes à San Remo, était-il dans cette ville en condition d'exilé puisqu'il avait rencontré quelques soucis ou était-ce pour des raisons peut-être commerciales, industrielles, puisque c'est aussi un homme qui devait breveter toutes ses inventions et qui devait passer de ville en ville pour breveter ses inventions?
Alors je crois pas qu'il n'ait jamais été où que ce soit en condition d'exilé. Il a toujours été homme d'affaires, donc il avait des usines un peu dans tous les pays où il a été. Donc, puisque quand il est mort, il était à la tête d'un empire industriel d'une centaine d'usines. Il avait également dans toutes ses maisons un laboratoire. C'est-à-dire qu'il a beaucoup manipulé lui-même, essayé d'inventer des nouveautés, testé des nouveaux produits. Donc en fait, il était parti peut-être un peu précipitamment, mais il était à mon avis tout à fait toujours en fonction d'industriel et de chercheur. Et donc il a continué toute sa vie. Sauf que quand même, le rythme s'est un petit peu ralenti. Dans ses jeunes années, il a énormément voyagé. Dès 17 ans, il partait aux États-Unis après un tour d'Europe. Mais à force de voyager et de voyager dans des conditions assez pénibles, c'était en fait bateau, train, etc. Je pense que vers la fin de sa vie, il a commencé à ralentir un petit peu le rythme. En plus, il était malade, il avait des problèmes de cœur. Donc, il prenait pas de la nitroglycérine, mais enfin, il prenait quand même des dérivés nitrés pour essayer de soulager son cœur. Et donc, je pense qu'il avait quand même ralenti le rythme et qu'il commençait un peu à payer le prix de tous ses déplacements, de tous ses voyages, puis peut-être aussi d'un certain nombre de déceptions. Il s'est fait piquer quelques brevets, enfin, il y a eu des problèmes de
cet ordre. Mais sur les quelques 300 et quelques 380 brevets, c'est ça qu'il a réalisé. Quelles sont les inventions phares ?
On a un peu tendance à dire que la dynamite a été inventée par Nobel. En fait, ce n'est pas vraiment ça. Le problème était surtout de stabiliser la nitroglycérine. La nitroglycérine avait la fâcheuse habitude de détonner au moindre choc, au moindre problème. Et donc, la question était d'arriver à savoir comment on pouvait utiliser cet explosif. Et finalement, donc, Nobel, dans un premier temps, a trouvé en Allemagne une sorte de sable qui s'appelle du Kieselgur. Et ce Kieselgur mélangé à la nitroglycérine empêchait qu'elle détonne pour un oui et pour un non. Petite difficulté, cependant, du coup, ça devenait un explosif nettement moins brisant, c'est-à-dire que elle était stable, mais du coup, c'était quand même beaucoup plus difficile d'arriver à faire sauter des pendroches ou des choses comme ça. Alors ça, ça a été quand même un problème pendant très longtemps, et il est passé à un stade ultérieur, donc qui est la gélignite. Et la gélignite, alors ça, la découverte est assez amusante. Vous pouvez voir de ci, de là, sur ce panneau.
Alors, nous avons un petit panneau lumineux.
Il y a, par exemple, ici, nous avons on aperçoit une main avec du sang qui goutte de cette main. Et ça, c'est pour rappeler donc la découverte de la gélignite. Alors, ce qu'on raconte, hein, il faudrait toujours vérifier, c'est qu'un jour, Alfred Nobel se coupe un doigt. Il était au premier étage de sa maison, il descend au rez-de-chaussée, il se dit « il faut que je trouve du collodion ». Alors, moi, j'avais tendance à penser que les nouveaux pansements, vous savez, qu'on met avec des petits pinceaux sur un doigt, je pensais que c'était récent. Et apparemment, on utilisait le collodion en 1850 pour le passer sur des petites coupures et pour empêcher donc le saignement. Et donc, il trouve du collodion, il se met un petit peu de collodion sur sa coupure. Et puis il se dit, mais au fait, et si j'essayais de mélanger du collodion avec la nitroglycérine? Vous voyez, tout le monde se dit ça. Si je mélangeais un peu de collodion avec de la nitroglycérine, bon. Et finalement, il arrive à stabiliser la nitroglycérine et il invente la gélignite. Et donc, un explosif, là aussi, facile à transporter. Donc tout ça, ce sont un peu les débuts de l'utilisation de la dynamite. Autre invention, le détonateur. Le détonateur est quand même donc quelque chose qui permet véritablement de faire exploser la dynamite quand on en a besoin.
Tout a un lien à chaque fois avec tout ce qui est du domaine de l'explosif, en fait.
Voilà, en général, c'était quand même... Alors, il a travaillé sur pas mal d'autres sujets, mais quand même, l'axe central, ça a été les explosifs. Alors, pour prendre un exemple, sur cet ensemble d'une trentaine, d'une quarantaine de petits montages, on a quelque chose d'assez amusant. On a un personnage qui est réputé surveiller la fabrication de la dynamite, et en particulier donc en partant de la nitroglycérine. Et ce personnage est assis sur un tabouret qui a un seul pied, ce qui fait que, évidemment, si le personnage s'endort, il va avoir tendance à se casser la figure, ce qui devrait le réveiller. Et donc, ça permet d'éviter qu'il puisse s'endormir pendant son travail. Bon.
On voit un cochon parce que la glycérine s'est faite
voilà,
à partir
absolument.
De
voilà, absolument. Donc, elle était faite au départ à partir de graisse de porc. Et donc, à chaque fois, chacun de ces petits montages évoque une facette de l'activité, une création. Alors, bon, je disais pas simplement les explosifs. Effectivement, dans l'exposition, on va voir un petit peu plus loin. Il y a des choses concernant les bicyclettes, concernant un certain nombre d'autres sujets, concernant les textiles, par exemple. Enfin, il a travaillé quand même sur pas mal de domaines divers.
Eh bien, nous poursuivons, si vous voulez.
Continuons. Alors, on a là, par exemple, aussi quelques petites choses sur les explosifs qui, en particulier, pouvaient être utilisés, des explosifs sous-marins. Et donc, on a quelques petites évocations de comment faire sauter des obstacles au fond des ports ou des choses comme ça. Là, on voit un petit scaphandrier qui remonte en catastrophe sur le bateau. On va déclencher l'explosion et puis on voit les rocs au fond de l'eau.
Se disperser, se disloquer.
Voilà, ou alors il y a même des petites choses historiques. Il y avait à l'époque, finalement, un anarchiste qui avait menacé de faire sauter le roi de Suède. Donc, il y a l'évocation. On s'aperçoit que les choses finissent bien. Il y a un petit morceau de dessin animé. Et on voit que le roi de Suède a le temps de quitter son fauteuil précipitamment avant l'explosion. Mais c'est vrai qu'il a toujours un peu eu cette sorte de réputation de marchand d'explosifs, de marchand de mort. Enfin, ce qui est quand même assez... ce qui est assez désagréable, puisque en gros, il a quand même travaillé surtout pour tout ce qui était civil. Un de ses grands regrets, c'est par exemple de ne pas avoir été invité à l'inauguration du tunnel du Saint-Gothard, qui avait été percé pour une grande partie grâce à ses explosifs. Oui. Et donc, il n'a pas été invité. Il en a conçu quelques irritations parce que véritablement, il était tout à fait à la base de la possibilité de faire le Saint-Gothard.
Nous allons avancer vers les correspondances d'Alfred Nobel. Nobel, on l'a bien compris, voyage beaucoup, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Était-il un personnage solitaire?
Je crois qu'il était relativement solitaire et qu'il a passé une grande partie de sa vie. Alors effectivement, il y a une période vers 43 ans où on lui connaît deux histoires amoureuses ou deux débuts d'histoires amoureuses. Donc il a effectivement engagé quelqu'un qui était à la fois sa secrétaire puis peut-être un petit peu plus, et cette personne est partie au bout d'une quinzaine de jours. Elle a été épousée quelqu'un d'autre, donc on peut supposer que c'était quand même pas... Et puis alors il y a eu Sophie S. Alors Sophie S, qui elle a quand même largement essayé de profiter de la situation, et puis qui s'est fait offrir tout un tas de choses, vêtements, bijoux, fourrures, etc., voire même après une maison, mais qui à terme était sûrement quelqu'un de très intéressé, puisque en fait elle a même essayé de monnayer la mise à disposition des lettres qu'elle avait échangées avec Nobel. Donc
elle voulait faire chanter.
Voilà, un petit peu. Donc on peut penser que ce n'était pas forcément quelqu'un de tout à fait passionnant. Et alors avec Sophie S, finalement, à la fin, il entretenait une sorte de relation paternelle, on va dire, donc c'était devenu finalement quelqu'un qu'il a doté un peu dans son testament. Enfin, mais donc manifestement, il a été assez déçu. On a l'impression qu'il a passé quand même une grande partie de sa vie en solitaire. Je crois qu'il travaillait énormément, qu'il avait une capacité de travail assez étonnante.
Nous sommes également dans une zone consacrée aux correspondances d'Alfred Nobel. Il entretient une correspondance avec la plupart du temps avec sa famille. En fait, il reste très famille.
Voilà, tout à fait.
C'était
véritablement le clan, et donc il y a énormément de lettres adressées, en particulier donc aux frères. Mais il était aussi en relation épistolaire. C'est ce qui lui a valu ses ennuis à l'époque de la balistite. C'est qu'en fait, il avait écrit en confiance à un collègue, j'allais dire industriel, en citant des formules de la balistite. Et finalement, c'est pour ça que les services secrets l'ont accusé quasiment d'espionnage, quoi, en fait. Parce que bon, il était dans un monde où on s'écrivait beaucoup. Je pense qu'il y avait une petite communauté de chercheurs, d'industriels. Et donc, il ne prenait peut-être pas forcément toutes les précautions nécessaires. Puis je pense aussi qu'à l'époque, quand même, peut-être que tout ce qui était réglementation sur les brevets était un petit peu plus souple, on va dire. Enfin, et je pense qu'il a pris relativement des risques en matière de découverte et de divulgation de découverte.
Avançons, si vous le voulez bien, vers les inventions. Nous avons quelques inventions assez originales.
Ah oui, alors il y a devant nous cette étonnante bicyclette.
Un vélocipède Svea.
Voilà, alors cette bicyclette a quand même une très grande caractéristique, c'est que le pédalier ne décrit pas du tout un mouvement circulaire comme dans la plupart des bicyclettes, mais finalement un mouvement alternatif.
Donc on de bas en haut, c'est ça? Alors comme
on a un step. On a un mouvement de déplacement en fait latéral, et donc le pédalier ne tourne pas donc autour d'un axe, mais il se déplace. Un peu, on pourrait comparer presque avec un piston de locomotive. Et surtout, il y a des changements de vitesse. Alors, je dis des changements de vitesse parce qu'il y en a un sur chaque pédale. Alors ça, si on peut m'expliquer comment facilement on peut changer de vitesse sur deux pédales en même temps, je suis preneur de l'explication. Cela dit, c'est quand même, semble-t-il, un des ancêtres du changement de vitesse en matière de vélo.
Mais c'est son invention ou c'est l'invention de quelqu'un d'autre qui l'a mis à...
Non, je pense qu'a priori, c'est son invention et que donc il a... Mais je pense que comme assez souvent, il a lancé un peu l'idée et puis après, il a dû laisser un peu tomber. Donc en fait, ça aurait été pas mal peut-être de poursuivre, de continuer et de simplifier parce que quand même, déjà, un ensemble avec deux chaînes, etc. Puis aussi, quand on regarde ce vélo, enfin moi, une de mes inquiétudes, c'est qu'il doit faire un poids absolument fabuleux, quoi, en fait. Tout l'ensemble, bon, il y a des pièces en bois, il y a des pièces en métal. Enfin,
c'est un très bel objet.
Oui, c'est un bel objet, mais quand même, je crains un peu que ça ait été...
Sur le plan d'utilisation,
voilà, je pense qu'il aurait fallu, à mon avis, développer, étudier après et aller un petit peu plus loin. Hein. Ça, c'est... De même, je pense que ces études ou ces découvertes sur le textile, bon, il avait un peu pressenti qu'à terme, on pouvait arriver à avoir des vêtements faits de mailles ou de tricotage, si j'ose dire.
Nous avons devant nous un bustier en soie artificielle.
Voilà.
Vous pouvez nous en dire plus ?
En fait, donc, je crois qu'il avait pressenti qu'on pouvait, à partir de composants individualisés, obtenir des surfaces de tissu, soit par maillage, soit par tressage. Et puis, je pense que là aussi, il est resté un peu en cours de route et que finalement, il n'a pas été jusqu'au bout de la fabrication. Je pense qu'en fait, c'était peut-être plutôt un lanceur d'idées et que finalement, aller jusqu'à la véritable production, donc je pense que peut-être s'il obtenait des succès assez rapidement, peut-être qu'il aurait poursuivi. Mais disons que je pense qu'il y a eu, mais c'est peut-être un petit peu tous les inventeurs, vous savez, qui ont un pressentiment, qui ont une envie et puis qui se rendent compte que ça ne marche pas forcément. Et donc, il laisse un petit peu tomber en attendant que quelqu'un d'autre reprenne le sujet. Et puis je pense que lui, il avait quand même cet univers industriel et que donc il fallait faire vivre cet univers et que peut-être lancer trop de nouveautés, trop de nouvelles choses aurait un petit peu compliqué son travail, en fait.
Derrière vous, une troisième invention qui est exposée ici au Palais de la Découverte. C'est une maquette d'un bateau en aluminium.
Oui, alors donc, je pense que c'était tout à fait dans la logique d'essayer de fabriquer des coques à la fois solides, résistantes, légères. Et donc, je pense qu'effectivement, il s'est intéressé assez tôt à l'aluminium. Je pense dans les années 80-90. Et donc pour construire des pièces d'une certaine taille, mais qui restaient finalement assez faciles à manœuvrer. Bon, c'est-à-dire que je crois qu'il a étudié certains bateaux dans des conditions difficiles, c'est-à-dire quand il fallait par exemple se retrouver à porter certains bateaux, des choses comme ça. Donc il avait travaillé d'abord sur des bateaux de petite taille, et puis il a pensé aussi à un certain nombre de bateaux plus imposants. Il a déposé là aussi quelques brevets. C'est vrai que l'aluminium, en gros, était dans ses débuts. Hein. Je pense que l'aluminium, c'est Sainte-Claire-de-Ville, etc. Et donc, je pense que dans ces années-là, on était sur les premières utilisations. En fait, hein.
Comme vous le disiez à l'instant, il commence certaines choses, il devine qu'il y a un potentiel dans ses idées, et il brevette. N'avait-il pas une brevite aiguë ?
Ça,
il déposait 380 et quelques brevets.
Oui, je pense qu'en fait, c'était son mode de fonctionnement. Cela dit, donc, comme il y a eu des contestations, par exemple, Ascaro, qui était l'inventeur de la nitroglycérine et qui après a expliqué que c'était lui qui avait inventé la dynamite, je pense aussi qu'il a quand même été soumis un certain nombre de fois à des détournements de ses inventions. Et donc, ça paraissait quand même naturel d'essayer de breveter et de breveter au maximum. Mais en même temps, je crois que c'était son mode de fonctionnement, c'est-à-dire bricoler, faire un petit peu de laboratoire, essayer de trouver quelque chose et puis après breveter. On était quand même sur une période déjà industrielle et donc je pense qu'il se rendait compte de l'importance qu'il y avait à protéger une découverte et à éviter qu'elle ne tombe trop vite dans le domaine public. Cela dit aussi, s'il a quand même réuni une certaine fortune, c'est bien qu'il avait des retours sur ses inventions.
Donc, oui. Est-ce que éventuellement vous avez en tête des exemples d'inventions assez originales ?
Je pense qu'en fait, on n'est plus tout à fait dans le terme des inventions, mais je pense que Nobel avait une peur panique d'être enterré vivant. Et c'était une peur assez courante à l'époque, en fait, hein, parce qu'un certain nombre de gens faisaient des arrêts cardiaques ou des choses comme ça, et on les enterrait, et puis on s'apercevait des fois, quand on exhumait les gens, qu'il y avait de jolies traces de griffures sur le couvercle du cercueil ou des choses comme ça. Donc, il avait une peur panique d'être enterré vivant.
Donc, il
s'est intéressé à des gens qui, à l'époque, travaillaient avec des systèmes de cordes, de poulies, de petites clochettes qui étaient installées à l'extérieur de la tombe et qui permettaient de savoir si la personne qui avait été enterrée s'était réveillée au sein du tombeau. Et entre autres, il a demandé quand il serait mort, qu'on lui ouvre la carotide pour être sûr qu'il serait véritablement totalement exsangue au moment où il serait enterré. Je crois que ça a été exécuté en fait d'ailleurs et qu'on l'a proprement, si j'ose dire, égorgé et que comme ça il avait une certitude de ne pas être enterré vivant.
Nous arrivons dans une partie où il y a trois villes qui sont représentées, Saint-Pétersbourg, Stockholm et Paris. Là, nous sommes à Saint-Pétersbourg, c'est là où il a,
là où alors, il a donc, vécu là, il a sa jeunesse. Effectivement sa jeunesse. Donc, les précepteurs qu'il a eus à Saint-Pétersbourg étant des chimistes, l'ont formé assez notablement à la chimie. Cela dit, il n'a quand même pas vécu très très longtemps à Saint-Pétersbourg, puisque donc à 17 ans, il a commencé un tour d'Europe, et puis après, il a été faire un saut aux États-Unis. Effectivement, bah, je pense qu'il a été assez marqué par certains de ses profs, enfin, de ses précepteurs. Et donc, Zinine, qui était un de ses précepteurs, était un chimiste assez célèbre. Et donc, je pense qu'il y a eu un enseignement général, mais que quand même cet enseignement a été assez notablement tourné vers la chimie. Finalement, donc, ça a été une période, en gros, de découverte, d'invention. Et puis alors, bah, évidemment, ça a été quand même difficile. Il y a eu des hauts et des bas, puisque donc son père, qui au départ n'était pas très riche, part à Saint-Pétersbourg, développe cette histoire de fabrication de mines pour la guerre de Crimée. La guerre de Crimée se termine et le père est ruiné. Donc, il a fallu effectivement à ce moment-là commencer à réfléchir aux moyens de gagner de l'argent, donc de monter des usines, d'exploiter effectivement ses brevets. Donc il y a eu quand même des hauts et des bas dans la vie de la famille à Saint-Pétersbourg. Alors vous disiez Paris, bon bah Paris ça a été véritablement l'apogée industriel.
C'est là d'ailleurs que l'on voit toute une série de reçus, de factures dans les grands magasins, parce que j'ai cru comprendre qu'Alfred Nobel aimait beaucoup, quand il venait sur Paris, faire les magasins, les grands magasins des grands boulevards.
Il y avait effectivement ces grands magasins, donc on voit des factures du magasin du Louvre ou des choses comme ça.
Notamment pour la fameuse Sophie S, dont
voilà, bon, alors donc il payait certaines des factures de Sophie S. Bon, donc on voit des factures de fleurs, des factures d'un certain nombre de choses, voire des factures plus sérieuses d'ailleurs aussi pour les usines ou pour ce qui l'intéressait à titre commercial et industriel. Mais effectivement, je crois qu'il avait à Paris quand même une vie assez mondaine, puisqu'il était invité dans un certain nombre de soirées. Il y a quelques invitations, des invitations à la présidence de la République, etc. Il a reçu des décorations. Il faisait partie, on va dire, de la vie parisienne. Il était assez connu, assez célèbre. Et donc, il y a à la fois tous les témoignages de cette époque en termes d'achat et puis aussi en termes de célébrité, puisque donc il était quand même assez largement invité, il faisait véritablement partie de la bonne société, et donc il y a toute une évocation de cette période au travers de témoignages ou d'objets. En
fait. Il s'installe à Paris en 1873, il est donc dans la dernière partie de sa vie, si je puis dire. Mm-hmm. Est-ce une autre partie différente d'Alfred Nobel, un peu plus mondaine, puisqu'il a eu toute cette période d'invention où il circulait dans tous les pays d'Europe et également aux États-Unis. Est-ce que là, il se pose un peu plus et profite de la vie et des soirées parisiennes et du faste parisien ?
Alors là, je crois qu'il profite un peu plus effectivement de cette vie, mais il commence à être assez sérieusement malade et fatigué. Donc, il y a un petit peu des limites à cette participation à une vie mondaine. Donc, il va dans un certain nombre de choses. Mais en même temps, il y a toujours aussi quelque part ce petit soupçon. Et par exemple, bon, bah, quand le Figaro publie sa nécrologie, vraisemblablement par erreur, tout le monde se demande si ça n'est pas aussi un peu une méchanceté pour rappeler qu'il y a quand même un certain nombre de gens qu'il considère toujours comme un marchand de mort, comme quelque sorte un marchand de canon. Et ça, je crois qu'il en souffre beaucoup. Donc il y a un petit peu un mélange de tout ça. À la fois une vie mondaine, à la fois le fait de s'être un petit peu posé à Paris, dans une ville qu'il aimait beaucoup, et puis le fait qu'il est quand même relativement mal perçu, et peut-être aussi que le testament, c'est un moyen de regagner une certaine solvabilité, j'allais dire, enfin, solvabilité morale, d'une certaine façon, de redevenir quelqu'un qui a créé quelque chose de très important et donc de finir d'effacer cette suspicion d'être un marchand de mort,
etc. La création des Nobel, c'est comme pour essayer de retirer cette culpabilité qu'il pouvait avoir.
Un peu, en fait. Alors, je ne suis pas sûr qu'il se sentait véritablement coupable parce qu'il savait ce qu'il avait fait, mais il sentait bien que pour un certain nombre de gens, il était perçu comme quelqu'un qui avait contribué à l'usage des explosifs. D'ailleurs, quand vous posez la question à quelqu'un, vous dites Nobel, ils vous répondent la dynamite, et en général, quand vous leur demandez mais la dynamite, à quoi ça sert, ils ne pensent pas forcément à des usages civils. Donc il y a toujours cette espèce de petite de choses qui lui collent à la peau pour dire que finalement, il a largement contribué à la guerre. Alors je pense que les prix, c'est quand même un moyen de bien affirmer qu'il a voulu, d'un certain point de vue, le bien de l'humanité. Alors, c'était aussi un industriel, il a gagné de l'argent, donc il faut répartir un peu entre les deux choses.
Bernard Blache, Alfred Nobel part de Paris en 1891 pour s'installer en Italie. Vous nous l'aviez expliqué, il part à San Remo et il décède en 1896. Où est-il enterré ? En Italie, à Paris ou à Stockholm ?
Finalement, donc, c'est la Suède qui était son pays d'origine et qui a été le lieu où Alfred Nobel est enterré. Il était tellement cosmopolite que ça aurait pu être un peu partout en Europe, mais donc finalement, d'ailleurs même son testament a été validé et homologué pour finir en Suède après donc bien des débats, après plusieurs années de débats. Donc finalement, c'est quand même son pays d'origine qui a eu le privilège d'avoir la tombe de Nobel.
Comment, et pour terminer sur cette question, Bernard Blache, comment explique-t-on qu'aujourd'hui le prix Nobel, que ce soit dans toutes les disciplines, soit aussi prestigieux ? Comment il a acquis autant de prestige ?
Je pense en fait que les gens qui... Alors il y a souvent des débats concernant l'attribution des prix Nobel. Là, on a vu récemment des débats concernant le prix Nobel de la paix, à savoir que Nobel avait défini quand même que ce prix devait être attribué à quelqu'un qui limiterait les risques de guerre dans le monde. Alors on peut s'interroger, savoir est-ce que Mère Teresa a limité les risques de conflit dans le monde ? Est-ce que Al Gore et le GIEC ont permis d'éviter des guerres dans le monde. Donc il y a toujours des querelles, mais je pense qu'en fait, malgré tout, au total, que ce soit donc les 55 Français qui l'ont eu ou l'ensemble des récipiendaires d'un petit peu tous les pays du monde, je pense qu'en fait, en général, on ne conteste pas tellement les prix Nobel qui ont été attribués. Donc je pense que les gens estiment que ce sont véritablement des gens de valeur, des gens qui ont fait quelque chose pour l'humanité. Donc je pense que la valeur globale est reconnue un peu par tout le monde et que finalement, les gens considèrent que c'est une institution, qu'elle a ses règles, que les choix sont raisonnables et que finalement c'est véritablement une des très grandes créations d'Alfred Nobel.
Je vous remercie Bernard Blache de nous avoir donné tous ces détails sur la vie d'Alfred Nobel. Nous rappelons donc que l'exposition Alfred Nobel au Palais de la Découverte à Paris se déroule du 7 octobre 2008 au 11 janvier 2009 et non pas 9 janvier comme je l'ai dit au début de cet enregistrement et que bien sûr cette exposition est ouverte à tous et est accessible à un très large public adultes et enfants. Merci beaucoup Bernard Blache.
Merci à vous. Thank you.